Chapitre 46. Lorsqu'ils furent de retour devant le pavillon, après la fin du tournoi de Djala, Kalan dut s'avouer qu'elle ne parvenait plus à maîtriser son angoisse. Bien entendu, il y avait la sinistre perspective de se retrouver seule avec un homme à la fois dangereux et imprévisible. Ce qu'il avait l'intention de lui faire et qu'elle devinait suffisait cependant à la terroriser. Mais ce n'était pas tout. L'attitude de l'empereur avait de quoi glacer les sangs de sa prisonnière. Les joues légèrement rouges, les mouvements plus brusques, le regard plus intense que jamais malgré sa noirceur, Jagang parlait d'un ton plus tranchant, comme s'il était énervé. Suivre les parties de Djala l'avait mis dans un état de nerf tel qu'il se montrait plus violent encore qu'à l'accoutumée. En d'autres termes, le jeu l'avait excité et stimulé pour le grand malheur de sa victime. Pendant la compétition, il avait estimé qu'une des équipes ne donnait pas tout ce qu'elle avait dans le ventre. Une façon imagée de dire que les joueurs ne s'investissaient pas à fond dans la partie. Une fois leur défaite consommée, il les avait fait exécuter sur le terrain de jeu. La foule avait applaudi encore plus fort que pendant la partie, assez ennuyeuse, il fallait l'admettre. Jagang ayant été acclamé pour avoir condamné à mort des joueurs paresseux, les rencontres suivantes furent beaucoup plus animées, d'autant plus qu'on les avait jouées sur une pelouse rouge de sang. Celui des suppliciés, bien entendu, mais pas seulement. Au Djala, le joueur qui avait le broc devait esquiver les défenseurs du camp adverse. De leur côté, ils cherchaient à le plaquer au sol afin de lui prendre la balle. L'attaquant de pointe, ou marqueur, avait pour mission d'engranger des points et il était donc la cible privilégiée de tous les joueurs de l'autre équipe. Avec toute cette violence, les hommes se retrouvaient plus souvent au sol que sur leurs pieds. Quand ils jouaient torse nu à la bonne saison, ils étaient très vite poisseux de sueur et de sang car les coups pleuvaient dru. D'après ce que Kalan avait vu, les spectatrices, des civils qui suivaient l'armée, n'étaient pas le moins du monde dégoûtées par le sang. Au contraire, cette vision augmentait leur désir d'attirer l'attention des champions qui faisaient assaut de virtuosité, de technique et de courage devant l'empereur. À part dans le cas précédemment évoqué, les équipes perdantes ne furent pas mises à mort. Puisqu'elles s'étaient battues avec rage et détermination, elles furent simplement flagellées avec un fouet spécial aux multiples lanières au bout lesté de métal. Un coup pour chaque point d'écart avec les vainqueurs. Voilà ce que recevait chaque compétiteur après une défaite. En moyenne, on perdait au minimum par un écart de 3 ou 4 points. Un chiffre énorme une fois converti en coup de fouet. D'autant plus qu'un seul impact de cette arme terrifiante suffisait à faire éclater la peau du dos de n'importe quel homme. Durant la punition, la foule comptait avec enthousiasme les coups que recevaient les malheureux perdants agenouillés au centre du terrain. Pendant ce temps, les vainqueurs s'offraient un petit tour d'honneur, histoire de se faire acclamer par les spectateurs. Alors que ce spectacle avait écœuré Kalan, Jagang l'avait apprécié au plus haut point, un excellent prologue à la nuit qu'il escomptait passer avec la prisonnière. Kalan avait été soulagé que le tournoi se termine enfin. Mais à présent, alors qu'elle allait entrer sous le pavillon de Jagang, l'angoisse revenait, 10 fois plus forte que pendant les parties. Excitée par la violence du jeu et la vue du sang, l'empereur n'était pas d'humeur à se laisser interdire quoi que ce fût par qui que ce soit. Et pour cette nuit, il ne lui restait plus que Kalan comme source de plaisir. Alors que les gardes spéciaux allaient prendre leur poste pour la nuit, Kalan remarqua un homme qui courait en direction du pavillon, suivi d'assez près par un petit groupe d'officiers. Jagang s'interrompit au milieu des instructions qu'il donnait aux 5 gardes. Alors que le cordon de sécurité s'ouvrait provisoirement pour laisser passer les visiteurs, il les regarda approcher d'un œil perplexe. Le premier type était un messager. Les autres faisaient partie des proches conseillers du maître de l'ordre.
« Que se passe-t-il ? »
demanda ce dernier. Quand il avait des projets en tête, il détestait qu'on le dérange. Dans le cas présent, il avait hâte de se retrouver seul avec sa prisonnière. L'heure de consommer leur union était venue, et il ne se tenait plus d'impatience. Jusque-là, il n'avait pas eu le moindre geste déplacé. Une simple tactique, bien entendu, l'art de réserver le meilleur pour la fin. À l'instar des villes conquises par l'ordre, Kalan aurait eu tout le temps de mourir d'angoisse en l'attente de l'inévitable assaut. Guettant un sort qu'elle savait ne pas pouvoir éviter, elle se serait usée les nerfs, devenant ainsi une proie encore plus facile. Trop avisée pour tomber totalement dans un piège pareil, la jeune femme s'était efforcée de ne pas penser sans cesse à ce que Jagang allait lui faire et au dégoût qu'elle éprouverait. Mais il était difficile d'oublier un rendez-vous avec la terreur et la dégradation. Dès qu'il s'agissait de brutaliser les innocents, Jagang savait se montrer fin psychologue. Le messager tendit à l'empereur un cylindre de cuir. Faisant sauter le couvercle, il en sortit une feuille de parchemin soigneusement enroulée. Quand il eut brisé le sceau en cire, il déroula le message, le leva à hauteur de ses yeux et le lut à la lumière des torches qui flanquaient l'entrée du pavillon. Commençant par plisser le front de perplexité, il se mit très vite à sourire, puis il éclata de rire tout en regardant ses officiers.
« L'armée du prétendu Empire d'Aran a déserté le champ de bataille. Les rapports des éclaireurs et des sœurs sont formels. Effrayés de devoir affronter Jagang le Juste et l'armée de l'ordre, les Darans se sont débandés, comme le ramassis de lâches et de minables qu'ils ont toujours été. Les troupes ennemies n'existent plus. Aucun obstacle ne se dresse entre le palais du peuple et nous. »
Les officiers éclatèrent en vivate. Autour du pavillon, tout le monde jubilait. D'humeur généreuse, Jagang félicita ses généraux d'avoir contribué à la déroute de l'ennemi. Alors que tous les regards étaient braqués sur l'empereur, à présent il pérorait sur la fin imminente d'une trop longue guerre, Kalan leva discrètement une jambe, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent le manche du couteau glissé dans sa botte droite. Avec une extrême économie de mouvement, afin de ne pas attirer l'attention des gardes spéciaux, elle tira l'arme de sa cachette et la prit bien en main. Dès que ce fut fait, elle récupéra le couteau dissimulé dans son autre botte. Les deux armes étaient d'excellente facture. Sentir dans ses mains leurs manches enveloppées de cuir chassa d'un seul coup la sourde angoisse de Kalan. Avoir un moyen de frapper lui rendait sa dignité. Même si elle ne parvenait pas à empêcher Jagang d'avoir ce qu'il voulait, elle se serait battue jusqu'au bout, et c'était bien plus qu'une simple consolation. Pour son ignoble victoire, l'empereur allait devoir payer le prix fort. En bougeant seulement les yeux, mais pas la tête, elle nota mentalement la position de toutes ses cibles potentielles. Hélas, Jagang n'en faisait pas partie, car il était beaucoup trop loin. S'étant d'abord approché du messager, il avait ensuite rejoint ses officiers. L'empereur n'était pas un imbécile, Kalan le savait. Si elle se dirigeait vers lui, ça éveillerait aussitôt ses soupçons. Si présomptueux qu'il fût, il se douterait qu'elle n'était pas irrésistiblement attirée par son charme viril. En guerrier expérimenté, il agirait avant qu'elle ait pu lui sauter dessus. Même s'il avait été plus près, ses qualités de combattant et sa vigilance de tous les instants en auraient probablement fait un trop gros morceau pour Kalan. Il y avait de bien meilleures cibles, beaucoup plus faciles à surprendre. Les 5 gardes spéciaux sur la gauche de la prisonnière et les officiers un peu plus loin sur sa droite. Cela ne pouvait pas la voir. Si elle s'échappait, elle traverserait un camp plein de soudards tout aussi incapables de la remarquer. Certes, mais les 5 crétins la voyaient, eux, et ils étaient chargés de la surveiller. Verser du sang était à sa portée, beaucoup de sang même. En revanche, elle avait fort peu de chances de s'échapper. Alors que faire ? Lutter ou se soumettre servilement à un violeur? La réponse allait de soi. Tremblant de colère, Kalan serra plus fort ses deux armes. Elle ne laisserait pas passer une occasion de frapper ses tortionnaires. Avec une incroyable puissance, elle abattit une de ses lames et transperça la poitrine de l'homme qu'elle avait promis de tuer en premier. Quelque part dans son cerveau, embrumé par la fureur, elle enregistra la très brève stupéfaction du futur cadavre. Derrière lui, le type au nez cassé écarquilla les yeux de surprise et d'horreur. Se servant comme d'un levier du manche de l'arme plantée dans la poitrine de l'agonisant, Kalan bondit en avant. Dans son élan, elle arma son bras droit, qui tenait toujours un couteau, et décrivit un grand arc de cercle qui ouvrit d'une oreille à l'autre la gorge de l'apprenti violeur. En moins de 3 secondes, Kalan venait d'envoyer dans le royaume des morts les 2 premiers noms de sa liste. Sa première victime s'étant écroulée, elle lui plaqua une botte sur la poitrine pour mieux dégager la lame qui lui avait traversé le cœur. Puis, elle se rua sur son deuxième groupe de cibles, les officiers. au premier, elle infligea un plaquage de toute beauté que n'aurait pas renié un champion de Djala. Avant de se relever, elle enfonça une de ses armes dans le ventre de l'homme, puis lui imprima un mouvement vertical pour mieux déchiqueter toute une série d'organes. Dans le même temps, elle planta sa seconde lame dans la gorge de l'homme qui se tenait à côté de sa troisième victime. Cet officier de haut rang était en fait sa cible prioritaire. Résolu à l'éliminer, Kalan frappa si fort que la pointe de la lame traversa toute sa gorge, s'insinua entre deux vertèbres et ressortit par la nuque du moribond. La moelle épinière sectionnée, l'officier s'écroula comme une masse, entraînant avec lui sa meurtrière qui serrait toujours le couteau dévastateur. À cet instant, alors que Kalan aurait eu besoin de tous ses moyens pour tomber souplement et se relever dans le même mouvement, la magie du maudit collier s'abattit sur elle comme la foudre. Les trois gardes spéciaux survivants choisirent ce moment pour attaquer. Se jetant sur elle, ils la plaquèrent au sol et lui enfoncèrent le visage dans la poussière. Paralysé par l'attaque magique, Kalan ne put rien faire pour les empêcher de la désarmer. Sur un ordre de Jagang, les trois hommes remirent debout la prisonnière. Essoufflée, le cœur battant la chamade, Kalan n'avait pas pu s'enfuir comme elle le prévoyait. Mais elle avait de quoi être fière du bilan de son attaque surprise. Deux officiers en moins, plus deux des pires idiots que la terre ait jamais portés. Un seul bémol, au lieu de la capturer, les trois minus survivants auraient été inspirés de la tuer. Mais décidément, ils n'étaient bons à rien. Jagang ordonna à ses officiers de se disperser. Devant leur stupéfaction, il improvisa une explication. Un sortilège défensif s'était mis à fonctionner n'importe comment, mais il avait repris les choses en main et il n'y avait plus rien à craindre. Habitués à la violence, les militaires ne firent pas toute une affaire de la fin brutale et inexplicable de deux de leurs collègues et d'un duo de gardes. Si l'empereur affirmait que tout allait bien, ils étaient disposés à le croire et tant pis pour les dégâts collatéraux. Alors qu'ils sortaient du premier cercle, ils ordonnèrent à quelques hommes d'aller s'occuper des cadavres. Les soldats d'élite, attirés sur place par le bruit et l'agitation, furent d'abord secoués par la mort de quatre hommes au cœur même du territoire de l'empereur. Voyant que Jagang prenait l'événement avec un grand détachement, ils donnèrent un coup de main au type désigné pour emporter au loin les dépouilles. Quand le calme fut revenu, Jagang se tourna vers Kalan.
« Tu as regardé attentivement les parties, dirait-on, en t'intéressant plus à la stratégie qu'aux muscles saillants des joueurs. »
Kalan défia du regard les trois hommes qui l'immobilisaient toujours.
« J'ai tenu mes promesses, voilà tout. »
Jagang expira lentement, comme s'il voulait calmer ses propres ardeurs meurtrières.
« Tu es une femme hors du commun et une adversaire redoutable. »«
La messagère de la mort, oui. »
Jagang jeta un rapide coup d'œil aux quatre cadavres que des hommes traînaient dans la poussière.
On peut dire ça.
L'empereur reporta son attention sur les trois gardes spéciaux.
Ai-je une seule raison de ne pas vous envoyer sous les tentes de torture?
Les trois hommes, jusque-là bouffis de fierté parce qu'ils avaient maîtrisé la furie, en rabattirent d'un seul coup et se consultèrent nerveusement du regard.
Excellence, dit l'un d'eux. « Les deux hommes qui ont manqué de vigilance l'ont payé de leur vie. Nous avons fait notre devoir et empêché que la prisonnière s'évade. »«
C'est moi qui l'ai arrêtée !»
s'écria Jagang.
« Avec le collier qu'elle porte autour du cou !»
Il toisa les gardes un long moment, le temps de se calmer un peu.
« Mais on ne m'a pas surnommé pour rien Jagang le Juste. Pour l'instant, je vous laisse la vie sauve, mais... « Que cette affaire vous serve de leçon. Ne vous ai-je pas prévenu qu'elle est dangereuse? Maintenant, vous voyez que je ne plaisantais pas. »«
Oui, Excellence, »
dirent en cœur les trois hommes.
« Relâchez-la !»
ordonna soudain Jagang. Après avoir foudroyé chaque garde de son regard totalement noir, il prit Kalan par le bras et l'attira vers le rabat du pavillon. Encore sous le choc de l'attaque magique, la jeune femme tremblait et elle avait mal partout. Jusque-là, elle s'était demandé si Jagang contrôlait vraiment la magie du collier. La réponse était positive, et ça excluait toute possibilité d'évasion. capable de la torturer à distance. Jagang avait tous les pouvoirs sur elle. Au moins, elle en était certaine désormais.
« Cette nuit, vous resterez tous les trois devant le pavillon. Si la prisonnière en sort sans moi, vous aurez intérêt à l'arrêter si vous tenez à votre misérable peau. »«
C'est compris, Excellence. »
Alors que les trois types allaient prendre leur poste, Jagang se tourna vers Kalan.
« Aujourd'hui, tu t'es simplement promené parmi mes hommes. Une très courte balade, en fait. Demain, tu verras beaucoup plus de soldats. » Et nous sélectionnerons un vrai régiment de gardes spéciaux. J'ignore ce qu'est l'anomalie dont parlait Ulyssia et je m'en fiche comme d'une guigne. L'important, c'est que ce phénomène me confère un avantage. Pouvoir te faire étroitement surveiller. Demain, tu chevaucheras encore mais sans tes vêtements et tu remonteras la colonne. En somme, te voilà bombardé, sergent recruteur. La journée devrait être très amusante.
Kalan ne fit aucun commentaire, car ça n'aurait servi à rien. Dans sa nouvelle vie d'esclave de Jagang, les humiliations succéderaient aux humiliations et ce cycle infernal ne faisait que commencer. Jagang fit entrer Kalan dans le pavillon comme si elle était une invitée de haut rang. Une façon de se moquer d'elle, bien entendu. Dès qu'elle fut à l'intérieur, la magie du collier relâcha un peu son emprise sur ses membres et la douleur s'estompa. Toujours ça de gagner en attendant l'horreur. À la chiche lueur des bougies, l'intérieur du pavillon évoquait l'atmosphère paisible d'un temple ou d'un sanctuaire. Une affreuse illusion. Pour Kalan, c'était au mieux un sinistre donjon et au pire le bûcher où elle brûlerait vive.